Amos chapitre 5 versets 2 et 3. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est étendue sur sa terre et personne ne la relève. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes en aura 100 de reste, et celle qui mettait en campagne 100 hommes en aura 10 de reste dans la maison d'Israël. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour, bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que l'on poursuive la méditation que nous avions commencée ou déjà poursuivie la dernière fois. Cette fois-ci sur cette autre voie du ciel. Nous avons eu une espèce d'introduction la dernière fois pour nous mettre, comme on pourrait dire, en bouche sur les ramifications spirituelles de cette autre voie du ciel qui nous est présentée dans Apocalypse, chapitre 18 et verset 4. Nous y allons pour nous remettre en mémoire l'esprit de ce message dans Apocalypse chapitre 18, qui vient juste à la suite de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, qui n'est autre que le quatrième ange que l'esprit de prophétie décrit comme le grand cri du troisième ange. Nous avions vu dans nos études précédentes que ce grand cri du troisième ange, cet autre ange, ce quatrième ange, s'est matérialisé, s'est manifesté de manière concrète lorsque la première guerre mondiale a éclaté en Europe et qu'un peuple s'est levé ayant un message qui était conforme à cette prédiction d'Apocalypse chapitre 18. Et un nouveau mouvement a vu le jour, un nouveau mouvement est né, ce quatrième mouvement d'Apocalypse 18, et qu'à ce moment-là, ce mouvement a été né et est entré en scène. Ce que nous avions vu, et nous le relisons ici dans Apocalypse chapitre 18, verset 1, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire. » Et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée, Babylone, la grande, et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Nous avons déjà exploré cela en grande partie, bien que ce message continue à prendre de l'ampleur, parce que l'esprit de prophétie nous dit que le grand cri du troisième ange croît jusque aux lois du dimanche, à quel moment ce message trouve son accomplissement le plus total. Mais déjà en 1914, c'était là que vraiment ce message, ce mouvement qui était prophétisé a vu le jour, a eu sa naissance physique. Il avait commencé à partir de 1888, où l'essence du message a vu elle-même le jour à travers le message de 1888 de Christ et sa justice et de la loi comme étant notre conducteur pour que nous fussions justifiés non pas par la loi, mais par la foi de Christ et en Christ. Mais c'est vraiment lorsqu'il y a eu cette séparation et cette naissance du mouvement de réforme des Adventistes du septième jour qu'il y a bel et bien eu cette naissance matérielle, physique, du quatrième ange. Et donc ce message avait clairement à voir avec la nécessité d'une autre sortie, comme l'esprit de prophétie le disait, comme la sœur White le disait déjà en son temps, elle disait, nous avions espéré qu'il n'y ait pas besoin d'une autre sortie. Mais le déroulement des événements au sein du peuple qui garde les commandements de Dieu fut tout autre que ce qu'ils avaient espéré. Nous avons déjà exploré cela, donc je ne reviens pas cela, c'est simplement j'en fais mention en passant pour que nous puissions garder le fil non pas de la pensée des hommes, mais le fil prophétique de Dieu, et que nous puissions garder à l'esprit ce que Dieu a dit, et que toujours dans ce que nous nous disons, nous répétions non seulement, non pas plutôt, ce que nous nous voulons que Dieu dise, mais ce que Dieu a bel et bien dit, et ce que Dieu voulait bel et bien dire, et nous faire comprendre. Et ensuite, nous passons au verset 4, qui est le verset qui attire tout particulièrement aujourd'hui notre attention. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc il y a quelque chose d'encore plus sérieux, c'est-à-dire que Dieu dit, voilà, ses péchés, la coupe de son iniquité est arrivée à son plein. Et Dieu va maintenant lui repayer, lui rendre tout ce qu'elle a fait. Mais en ce moment où il va rendre à Babylone tout ce qu'elle a fait, il a un peuple dans Babylone et il dit, il faut absolument que mon peuple sorte. Jusqu'ici, Babylone remplissait la coupe de son iniquité, mais là Dieu dit, voilà, ses péchés sont montés jusqu'au ciel. Elle a commis tant de péchés que maintenant cela vient jusqu'à la lit, cela vient jusqu'au bord, plutôt, au bord de cette coupe. La coupe est remplie. Et c'est quand la coupe est remplie, la coupe d'un peuple, d'une nation, d'une culture est remplie que Dieu déverse ses jugements, qui ne sont autres que la conséquence directe des actions du pécheur. Et donc, à ce moment-là, quand la coupe est remplie, Dieu permet que les conséquences du péché arrivent à leur fin, arrive à leur aboutissement. C'est le sens du terme les jugements de Dieu. Et donc à ce moment-là, fatidique, cruel, terminal de Babylone, Dieu a un message tout particulier qui vise tout particulièrement ce qu'il appelle son peuple. Ces personnes-là, il veut secourir, il veut rentrer une fois pour toutes dans le bercail, sous la tutelle suprême du seul bon berger, qui est Jésus. Et Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Il veut rentrer son peuple sous la tutelle, sous le parapluie, pour ainsi dire, de la pure vérité. Non plus de doctrines qui rendent l'esprit confus, qui sont les doctrines de Babylone, non plus sous la confusion, mais les sortir de la confusion et les amener sous la pleine lumière de l'évangile éternel, qui fut dès le départ de la création, mais qui a été perdu, qui a été oublié, qui a été négligé, qui a été perdu de vue, qui a été abandonné par certains, qui a été mal compris par d'autres, ou qui a été tout simplement, qui n'a jamais été connu par beaucoup. Donc Dieu, en harmonie avec le message du premier ange, qui proclame un évangile éternel, et qui continue jusqu'à la fin, jusqu'aux tribunaux, en harmonie avec tout cela, Dieu veut maintenant, Dieu appelle et veut rassembler son peuple. Et donc, frères et sœurs, dans cette étude, ce que j'aimerais, c'est que l'on explore quels tracés prophétiques nous sont donnés dans la Bible concernant ce troisième volet sous le message du troisième ange, ce cinquième mouvement, cette autre voie du ciel. Alors, pourquoi est-ce que je dis troisième volet? C'est tout simplement pour cette raison, c'est que nous, frères et sœurs, depuis 1844, et plus précisément depuis 1848, parce que c'est à ce moment-là que le message du sabbat a pour la première fois été proclamé et a commencé à être pratiqué, donc 1844, depuis 1844, parce que c'est à ce moment-là que le jugement investigatif a commencé, car nous le savons, à cette date du 22 octobre 1844, Jésus, en harmonie avec la prophétie de Daniel, chapitre 8, verset 14, est passé du lieu saint au lieu très saint pour entamer, désormais, à partir de ce moment-là, entamer l'œuvre du jugement, entamer ce jour antitypique des expiations. Et donc, depuis cette date-là, depuis 1844, nous sommes sous le message du troisième ange. Jusqu'à la fin, car vous voyez dans Apocalypse chapitre 14 que, à partir du verset, à partir du verset 9, jusqu'au verset 20, il s'agit du troisième ange. Et ce troisième ange, qui commence au verset 9, continue jusqu'à la fin du chapitre 14, au moment où nous avons une description des conséquences directes de la destruction qui a lieu lors de la sixième plaie, Armageddon, où il est écrit que l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc Dieu est en train de vendanger une vigne, mais ce n'est pas la vigne de Dieu, c'est la vigne de Sodome. Et cette vigne est immangeable et il va donc la vendanger et la fouler, parce qu'il est écrit au verset 20, la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Et si vous regardez exactement à quoi cela correspond, vous regardez que si vous commencez au début de la vallée de Jisrael, au pied de cette montagne de Megiddo, et que vous descendez jusqu'à Jérusalem, vous avez exactement cette superficie-là qui est décrite ici comme l'espace de 1600 stades qui est ici rempli de sang jusqu'aux morts des chevaux. Il y a un bain de sang, une véritable extermination lorsque les nations viennent s'affronter les unes les autres dans le Moyen-Orient, comme c'était prophétisé. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 16 que, dans Apocalypse chapitre 16, au verset 12, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, qui représente ni plus ni moins que la puissance de la Turquie, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Qu'est-ce qu'il y a à l'Orient? La Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde. Lorsque cette puissance de la Turquie est asséchée, alors la voie des rois de l'Orient est préparée. Et que vont-ils faire? Ce qu'ils ont été jusqu'ici empêchés de faire, c'est-à-dire faire la guerre à l'Occident. Et que se passe-t-il lorsque cette guerre est entamée, est commencée et rentre finalement dans le schéma de l'histoire de la Terre? Il s'agit d'Armageddon, où il est écrit au verset 16, « Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, entre parenthèses, montagne de la déroute. » Ce qui veut aussi dire, en hébreu, montagne de Megiddo. Ar-Megiddo. Et donc, pour revenir à ce que nous disions, à partir du verset 9 d'Apocalypse chapitre 14 jusqu'au verset 20, il s'agit du troisième ange. Et donc, à partir de 1844 jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre, nous sommes sous la proclamation du troisième ange. Mais, comme je l'ai dit juste avant, nous avons, sous notre message du troisième ange, trois volets distincts les uns des autres, à savoir, en commençant par le troisième ange, qui n'est ni plus ni moins, qui a trouvé ni plus ni moins sa matérialisation dans l'Église adventiste du septième jour. Il s'agissait au départ d'un mouvement, indéniablement, ce n'était pas une organisation, car les frères ne se sont organisés qu'en 1863. Donc au début, le mouvement avait une existence avant même que l'organisation voit le jour. Vous comprenez, cela vous donne une compréhension de la manière dont Dieu fonctionne à travers son peuple. Donc l'organisation était dans le plan de Dieu, seulement l'organisation ne vit le jour qu'en 1863, et jusqu'à cette date, Dieu avait déjà un peuple, parce que l'Église de Dieu, ce sont ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Et pour cela, pour exister, il pouvait exister avant même que l'organisation vit le jour. Et donc à partir de cela, vous avez le troisième ange. Ensuite, nous avons vu que le troisième ange, comme c'est marqué dans Apocalypse 3, ne répond pas les dirigeants, le ministère, l'ange de cette église, ne répond pas à l'appel de Jésus, à la repentance. Il est tiède et a choisi de demeurer tiède. Et donc, suite à cela, voit le jour un autre ange. Parce qu'il est écrit, je vis descendre du ciel un autre ange. Un autre par rapport à quoi? Un autre par rapport au troisième. Il vit, le révélateur vit descendre un autre ange. Ce qui donc nous amène à la simple conclusion qu'il s'agit du quatrième ange, parce que le précédent, c'était le troisième. Vous comprenez, il s'agit d'une simple logique de bon sens. Et donc, après le troisième, il y a le quatrième. Donc, vous avez le troisième ange, qui est le premier volet dans ce temps de la fin, de la période de l'Odyssée. Et ensuite, vous avez le quatrième ange, qui est le deuxième volet. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'ensuite il s'agit encore d'un autre. Parce qu'au verset 20, vous lisiez, je vais descendre un autre ange. Hein? Le mot autre, cela veut dire que c'est contraire de même. Vous comprenez? Il s'agit simplement d'une simple, conclusion de linguistique. Si c'est un autre ange, c'est que ce n'est pas le même ange. Nous sommes d'accord sur ce point. Et ensuite, vous lisez au verset 4, puis j'entendis une autre voix du ciel. Donc ici, il y a deux distinctions. D'une part, c'est une autre. Mais d'autre part, ce n'est pas un ange, c'est une voix. Donc il s'agit d'un autre mouvement, mais qui est différent en ce que ce n'est plus un ange, mais que c'est cette fois-ci une voix. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la ressemblance à la voix de Dieu est telle qu'il ne s'agit plus d'un ange en soi, mais qu'il ne s'agit plus que d'une voix. De la même manière que ça nous rappelle cette voix qui vint à Jésus lorsqu'il sortait du Jourdain après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, et cette voix descendit disant, si je ne m'abuse, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon bon plaisir, n'est-ce pas? Donc une voix venait du ciel et il n'y avait aucune interférence, c'était directement Dieu. Et bien ici, c'est le même concept, frères et sœurs. Cette voix du ciel, c'est la manière dont Dieu décrit ce nouveau mouvement. Parce que nous savons bien que cet autre ange n'est pas un ange littéral. L'esprit de prophétie nous dit que cet ange représente le peuple qui a ce message à donner au monde. En parlant du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième ange, l'esprit de prophétie parle de l'ange comme une représentation et une illustration du peuple qui a ce message à donner au monde. Et de la même manière, lorsque nous arrivons au verset 4, à cette autre voix du ciel, eh bien cette expression « une autre voix du ciel » qui disait, etc., sortez du milieu d'elle, mon peuple. Cela représente non pas une voie littérale, mais un peuple qui présente le message que Dieu lui a confié d'une telle manière que l'on n'entend plus la voix des hommes, mais comme si c'était directement la voix de Dieu. Donc il s'agit ici d'un peuple qui, lorsque nous les entendons, eh bien nous n'entendons plus l'éloquence des hommes bien éduqués, nous n'entendons plus l'éducation d'hommes qui ont suivi de longs séminaires de théologie, mais nous entendons une voix comme la voix directe de Dieu. Donc c'est un message qui a été épuré à travers l'affliction jusqu'à ce que vous ayez un peuple qui n'est plus en train de faire de tels exploits qu'il puisse recevoir les éloges continuellement et sans cesse les éloges des autres, mais qui n'a plus d'intérêt autre que la gloire de Dieu. Et Dieu décrit cela comme une autre voie du ciel. Vous comprenez? Donc voilà un peu. Nous commençons, nous n'avons même pas encore entamé les tracés prophétiques, mais c'est pour que nous puissions saisir de quoi il s'agit ici. J'aimerais que l'on se tourne ici vers instruction pour un service chrétien à la page 31. Il va falloir que je le trouve celui-là, parce que je ne l'ai pas ici, mais nous allons le trouver. Instruction pour un service chrétien, à la page 31 et au paragraphe 2. Instruction pour un service chrétien, page 31 et paragraphe 2. Le message qui revêt une si haute signification pour les habitants de la terre sera entendu et compris. Les hommes connaîtront la vérité, l'œuvre progressera sans cesse jusqu'à ce que toute la terre ait été avertie. Alors viendra la fin. L'œuvre progressera sans cesse, cette œuvre du troisième ange progressera sans cesse jusqu'à ce que toute la terre ait été avertie. Alors viendra la fin. La raison pour laquelle je nous lis cette initiation, frères et sœurs, c'est pour vous montrer que jusqu'à la fin, ce troisième ange ne connaît pas de halte, ne connaît pas d'interruption. L'esprit de prophétie nous dit que la cause de la vérité progressera sans cesse, sans aucune interruption. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre, nous ne sommes pas donnés, on ne nous donne pas, la justification de croire que le message va trouver une halte. J'ai entendu des personnes qui se disent que la pluie de l'arrière-saison ou le grand cri a une halte et ensuite il reprend. Frères et sœurs, cela ne peut pas être justifié, supporté par la parole de Dieu, le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie nous dit que l'œuvre progressera sans cesse jusqu'à ce que toute la terre ait été avertie. Donc il y a une progression ininterrompue du message du troisième ange sous ces trois volets. Hein, nous avons bien compris qu'il s'agit du même message jusqu'à la fin, de 1844 jusqu'à la fin du temps de grâce, il s'agit du même message d'Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 20, verset 9 à 13 si vous voulez, verset 9 à 12. Mais il y a trois volets, trois mouvements, d'où cette expression « cinq messagers célestes » qui nous est donnée par le frère Uriah Smith dans son ouvrage qui est bien connu comme « Daniel and the Revelation » ou aussi connu comme « Thoughts on Daniel and the Revelation » qui a été de nombreuses fois supporté par la sœur White, de nombreuses fois maintenue et par de nombreuses fois, à de nombreuses reprises, l'esprit de prophétie a encouragé les étudiants de la Bible à prendre ce livre de Daniel and the Revelation, ou littéralement Daniel et l'Apocalypse, écrit par Uriah Smith, et à étudier ce qui est écrit dans ce livre. Malheureusement, ce livre n'est pas disponible en français, enfin, du moins, pas dans sa version complète. Mais ce livre contient de profondes vérités, et parmi lesquelles se trouve cette déclaration où Uriah Smith nous présente la juste compréhension de cette autre voie du ciel. Il nous dit précisément ce que je suis en train ici de vous dire. Donc, il donne cette expression de 5 messagers célestes en parlant de cette autre voie du ciel comme le 5e messager céleste. Le 5e messager du ciel. Il s'agit d'un message et il s'agit d'un messager qui est représenté ici par cette autre voie. Et donc, par rapport à ces tracés prophétiques, qui nous aident à comprendre la nature et la place qu'occupe cette autre voie du ciel, ce 5e mouvement, ce 5e messager, dans la prophétie, nous nous tournons vers notre lecture biblique dans Amos chapitre 5. Amos chapitre 5, versets 2 à 3. Amos chapitre 5, versets 2 à 3, où il est écrit. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est étendue sur sa terre et personne ne la relève. Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes en aura 100 de reste, et celle qui mettait en campagne 100 hommes en aura 10 de reste dans la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez ces paroles, frères et sœurs? C'est très important que nous arrivions à discerner le sens strict de cette déclaration de Dieu. Au verset 2, il nous est mentionné une chute. Une chute morale et spirituelle est ici mise en lumière. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est marqué « Elle est tombée, la Vierge d'Israël ». Et nous savons qu'une femme est donnée dans la Bible comme un symbole d'une église. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6, où l'Église apostolique nous est représentée comme une femme ayant... allons-y brièvement. Ayant la lune sous ses pieds et le soleil par-dessus sa tête. Ici, au chapitre 12 d'Apocalypse, verset 1, il est écrit « Il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement, etc. Il parut un grand signe, s'agit du dragon, etc. Et ensuite, puis le dragon, verset 4, s'arrêta devant la femme qui alla accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations, etc. Il s'agit de Jésus. Là, vous avez ici l'Église, qui est la femme qui représente l'Église, qui nous est montrée comme en symbole accouchant du Fils de Dieu, accouchant de la tête de l'Église. Et nous lisons verset 6, « Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc il s'agit ici de la période de la suprématie papale qui nous est très très brièvement décrite, cette période pendant laquelle l'Église de Dieu fut secourue. Notamment nous avons l'histoire des Vaudois qui allèrent dans le désert, qui a l'air dans ces fameuses montagnes du Piémont et qui y furent réfugiés, qui y furent entretenus par Dieu pendant une longue période, pendant que l'Église de Rome jetait son voile sur toute la terre et exerçait son emprise persécutrice sur tous ceux qui étaient fidèles à la parole de Dieu. Vous avez ici un bref exemple de comment Dieu nous présente une femme comme un symbole d'une église. Ce symbole aussi est montré, nous le voyons dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6, où encore une fois, une femme nous est montrée, mais cette fois-ci pour nous montrer une prostituée, pour nous montrer Babylone, qui est une église qui a été longtemps déchue, qui fut d'ailleurs cette église qui persécuta l'église de Dieu, qui persécuta cette femme qui enfanta cet enfant. Et vous avez dans Jérémie chapitre 6 ce passage tout particulièrement probant sur ce symbolisme que nous donne la parole de Dieu sur une femme étant présentée comme une église, où on lit dans Jérémie chapitre 6, verset 2, où il est écrit « J'ai comparé la fille de Sion à une femme belle et délicate. » Donc, ce n'est pas écrit dans la Bible Osterwald, mais dans la Bible King James, il est écrit « J'ai comparé la fille de Sion à une femme belle et délicate. » Voilà, c'est comment la Bible King James nous présente ce verset. Vous avez aussi dans Cantique des Cantiques, chapitre 6 à 8, verset 8 à 10, et dans tout le livre du Cantique des Cantiques, où la femme est présentée comme un symbole de l'Église, et cet homme qui est merveilleux est un symbole de Christ, qui est l'époux, et l'Église l'épouse. Et donc, pour en revenir à ce que nous lisions dans Amos chapitre 5, vous avez cette introduction au verset 2 d'une église qui est déchue moralement et spirituellement. Mais dans le tracé prophétique, nous ne voyons pas seulement une chute. Nous ne voyons pas seulement une chute, mais nous en voyons deux. Suivez-le avec moi. Et retenons les leçons que nous pouvons retenir de ce verset 3. Amos chapitre 5 et verset 3. Voilà comment cela commence. La ville qui est partie en guerre avec 1000 hommes, elle ne revient qu'avec 100. Hein, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes en aura 100 de reste. Hein, ça commence, vous commencez par 1000, ensuite vous descendez à 100. Vous avez une première chute, une première défaite, pour ainsi dire. Mais si vous prenez en compte le verset 2, vous voyez qu'il s'agit bien de la description d'une chute, de la description d'une diminution numérale. Qu'est-ce que cela veut dire si Dieu nous présente ce symbole d'une ville qui est allée en guerre, mais qui est revenue avec beaucoup moins de personnes? Dans le contexte d'une description d'une église. N'est-ce pas que l'église est partie à la guerre de la foi, à la guerre de l'évangile, mais elle revient beaucoup moins nombreuse. 10 fois, combien? 10 fois moins nombreuse, elle revient. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu une défaite, beaucoup sont tombés, beaucoup sont sortis, n'est-ce pas? Il y a eu un criblage. Vous comprenez? Voilà le genre de symbolisme que Dieu donne. Et donc, il y a cette première chute. Ils sont allés à 1000, mais ils sont revenus, il n'y en avait que 100. Donc, il y a eu un carnage. Et il y en a beaucoup qui sont sortis des rangs. Ils sont soit morts, soit ils ont quitté, parce que c'était trop difficile. Vous comprenez? C'est un symbole. C'est une représentation symbolique de quelque chose de très littéral, très tangible. Donc, Dieu nous présente ici une église qui était très nombreuse au départ. Mais après de gros chamboulements, après de terribles épreuves, après de gigantesques tribulations, il y en a beaucoup qui sont sortis, beaucoup qui sont morts, morts spirituellement. Ils n'existent plus sur le plan spirituel, ils ne sont plus là. Ils sont sortis du symbole. Vous comprenez? Ils sont morts ou ils ont apostasié, ou ils se sont choisis une autre religion tout en gardant le revêtement de la piété, hein, comme 2 Timothée chapitre 3 nous le présente, je crois. Mais ensuite, vous avez cette première chute. Mais ensuite, la description, le tracé prophétique continue. Parce que qu'est-ce qui a marqué? Et celle qui mettait en campagne 100 hommes, hein, donc il s'agit de la même suite. Hein. La ville, elle était composée de 1000, du moins elle a envoyé en guerre 1000 dans ce symbole, ensuite il n'en restait que 100. Ensuite, cette suite maintenant de 100 hommes, qui a déjà été criblé, qui a perdu beaucoup de ses membres, hein, qui a souffert une grande perte numérale, maintenant elle repart en guerre. Hein. Elle repart dans cette guerre de l'évangile, cette guerre contre le diable, cette guerre pour la vérité, contre l'erreur, cette guerre contre les sophismes du monde, cette guerre contre cette conformation au monde, cette guerre contre la chair. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes en aura 10 de reste dans la maison d'Israël. Donc là aussi, il y a une autre chute. Le tracé prophétique est très précis, frères et sœurs. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'un verset isolé. Mais c'est bien pour cette raison-là qu'il ne s'agit pas d'un verset isolé que nous approfondissons tant ici la signification de ces paroles du verset 3. Donc nous avons une autre chute. Elle était composé de 1000 hommes, ensuite ça a été réduit à 100. Et ensuite, étant réduits à 100, ils sont repartis à la guerre, mais maintenant ils ont encore été mis en déroute, encore souffert un grand amoindrissement de leurs effectifs, encore souffert un grand dépérissement, une grande apostasie, un grand renoncement, une mort spirituelle élargie. Hein? Et maintenant, il n'en reste que 10. Il s'agit encore maintenant d'un autre peuple indépendant. Vous comprenez? Vous avez ici 3 volets qui nous sont décrits et présentés dans cette description prophétique d'Amos chapitre 5, verset 3. 3 volets parce que nous commençons à 1000, ensuite nous passons à 100, ensuite, nous passons à 10. Donc, vous avez 2 chutes et donc 3 volets. 3 volets sous le message du troisième ange. Et si nous passons à 10, la question que nous voulons poser maintenant, c'est est-ce que la Bible nous parle d'un tout petit reste à la fin des temps qui correspond à cette description ? Parce qu'il s'agit quand même une diminution très importante. Si vous passez de 1000 à 10, c'est que le reste est très très infime, n'est-ce pas? Et donc, pour cette raison même que ce reste semble très infime à en croire ces paroles d'Amos, nous voulons savoir si la Bible nous donne une autre description d'un reste aussi petit. Et pour cela, nous nous tournons vers Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, versets 8 à 9. Et vous voyez, c'est lorsque vous prenez vraiment Dieu au sérieux, frères et sœurs, vraiment ces paroles de Dieu au sérieux, c'est là que votre vie sera chamboulée parce que vous réalisez que ce que vous croyez avoir compris dans le passé n'était qu'en réalité qu'une lecture, qu'une compréhension si superficielle de ce que Dieu désirait en réalité vous et nous faire comprendre. À savoir, nous disons « oui, c'est un tout petit reste », mais quand nous pensons à la signification de ces paroles qui sont censées avoir un impact fort sur notre esprit, mais que nous avons modelé pour faire rentrer dans le schéma de notre pensée, et que nous réfléchissions à des millions ou à des dizaines de milliers lorsque nous essayions par le passé de faire rentrer ces descriptions dans nos cogitations personnelles. Mais maintenant, quand vous arrivez à une lecture précise et éclairée, et nourrie d'un entendement divin, vous réalisez, frères et sœurs, ce que je croyais, c'était à des années-lumière de ce que Dieu était réellement en train de dire. Dans Ésaïe chapitre 1, versets 8 à 9. Et vous voyez encore une fois, frères et sœurs, que Même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu faire un parallèle aussi probant, aussi prenant que celui que nous trouvons ici à travers ces deux versets qui viennent directement en parallèle des deux versets que nous avons eus dans Amos chapitre 5, versets 2 et 3. Écoutez-le, frères et sœurs. Écoutez-le. Verset 8 d'Ésaïe chapitre 1. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelques petits restes, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Hein? Nous étions 1000, nous avions été ensuite 100 et ensuite nous sommes que 10. 10. Hein? Ça vous fait penser à ce que Abraham disait, demandait à Jésus lorsque l'ange de l'Éternel parlait avec Abraham. Abraham disait, c'est pas possible, toi, Seigneur, tu vas pas détruire cette ville s'il reste un juste dedans. Et donc il est descendu de 50 à 40 à 30, etc. Et ensuite il a dit, Seigneur, est-ce que tu vas détruire cette ville s'il y a juste 10 personnes justes dedans? Le Seigneur lui a dit, s'il y a 10 personnes justes, je ne la détruirai pas. Et ici, vous avez la description d'Amos qui vous parle d'un reste où il ne reste plus que 10 personnes. Et donc, vous avez ce sous-entendu divin par lequel Dieu essaie de faire comprendre que ce reste est si petit que tant que ce reste est là, il ne détruira pas. Et c'est la raison pour laquelle il dit, voilà, la coupe de l'iniquité de ce monde, cette gigantesque Babylone est en train de monter jusqu'aux cieux. Je me rappelle de toutes leurs iniquités. Mais maintenant, il y a ces 10 personnes, ce tout petit reste, il faut que je le ramène. Vous comprenez la logique? Et au verset 8, il nous parle encore de cette fille. Maintenant, ce n'est plus celle qui est déchue. Maintenant, c'est celle qui est tombée moralement et spirituelle. C'est celle qui reste. Parce qu'il est marqué, la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. Une toute petite cabane, une cabane minuscule qui est prête à être déménagée. Comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Assiégée pourquoi? Parce que cette ville partait en campagne, mettait 1000 hommes, ensuite elle est revenue avec 100 hommes, ensuite elle est partie avec 100 hommes, elle est revenue avec 10, et il ne reste plus rien maintenant, il reste simplement un tout petit reste. De telle manière qu'il est écrit, si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelques petits restes, nous serions comme Sodome et Gomorrhe, etc. Et nous ressemblerions à Gomorrhe. Et dans la Bible King James, il est marqué littéralement, si l'Éternel ne nous eût laissé un tout petit reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Un tout petit reste. Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, pour de vrai? Lorsque vous réalisez la signification des paroles de l'inspiration à la lumière des événements de l'histoire, tels que nous les avons explorés à de nombreuses reprises et sous de différents angles, alors vous réalisez la parole de Dieu, elle est pure, éprouvée 7 fois par le feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous venez à la parole de Dieu, vous ne pouvez rien ajouter, vous n'avez rien à ajouter et tous vos ajouts sont comme de la paille. Ils vont être brûlés parce que la parole de Dieu est un feu, elle est épurée, il n'y a rien à purifier, c'est Dieu qui l'a présentée, c'est Dieu qui l'a produite, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la pourvoit pour nos âmes enchaînées. Enchaîné de traditions, enchaîné de mécompréhensions, enchaîné d'asservissements spirituels, charnels, moraux, sociaux, etc. Mais Dieu vient avec sa parole et tranche dans le vif. Si tant est que nous sommes prêts à recevoir la signification simple, pure, juste et tranchante de sa parole. Donc nous avons vu deux chutes et 3 volets. Et nous venons de voir ici bien une confirmation que Dieu avait bel et bien prophétisé que à cette fin des temps où le monde est devenu comme une Sodome moderne, une Gomorrhe moderne, précisément en ce moment, Dieu aurait un tout petit reste, juste avant la destruction de toute chose, juste avant la destruction de cette Sodome, il resterait ce tout petit reste, ce chiffre minimum des 10 personnes. Hein, parce que nous lisons dans les commentaires bibliques au sujet de cette requête d'Abraham qu'il n'est pas descendu au-dessus de 10, parce que dans la traduction hébraïque, 10, c'était le chiffre minimum. Quand nous parlions de 10, quand eux ils parlaient de 10, il s'agit du minimum que l'on puisse attendre, du minimum que l'on puisse demander. Si 10, c'est le minimum. Donc Abraham, quand il disait « s'il y a 10 personnes juste dans la ville, est-ce que tu vas la détruire ?» il était en réalité, en substance, en train de dire à Dieu « si, c'est le minimum que je puisse te demander, Seigneur. Je ne descends pas en dessous de 10. 10, c'est le minimum. S'il y a 10, tu ne vas pas les détruire. » Dieu disait « c'est le minimum. S'il y a 10, je ne vais pas les détruire. » Vous comprenez, il s'agit d'une dialectique entre Dieu et l'homme où Dieu comprend le désir et le sens des expressions de l'homme. Ça ne veut pas dire que s'il y avait 8 personnes, Dieu aurait détruit. Ce n'est pas ça le sens. C'est une question de l'entendement entre les cultures, entre la culture du ciel et les cultures humaines. Dieu comprend le sens de nos paroles. Il comprend nos prières, il entend nos prières avant que nous les prononcions, avant que nous bougions la bouche, avant que nous faisions ménager nos neurones. Il sait, il dit, j'ai déjà entendu. Mais il faut que tu pries parce que tu veux avoir une relation avec moi. Mais nous avons quand même cette assurance de pouvoir savoir que Dieu comprend nos cœurs, que nous n'avons pas besoin d'avoir une élocution parfaite pour être compris de Dieu. Il dit, tu ne sais pas comment le dire, mais je connais le cri de ton cœur. Et maintenant, nous continuons pour voir la continuité de ces tracés et de ce tracé prophétique, car il s'agit bel et bien du même. Il s'agit bel et bien du même tracé prophétique que Dieu présente en rapport avec ce cinquième messager céleste, cette autre voix du ciel. Il s'agit bel et bien de ce même tracé prophétique que Dieu nous présente sous de différents angles et par différentes expressions, mais toutes destinées à communiquer la même réalité. Car il s'agit bel et bien d'une réalité, frères et sœurs. Il s'agit de descriptions symboliques, mais d'une réalité réelle. Je ne sais pas, je ne connais pas d'autres mots. Une réalité tangible, une réalité historique. Et nous sommes aujourd'hui dans les derniers moments de l'histoire de la terre. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, nous continuons cet examen approfondi du tracé, des tracés prophétiques de cette autre voie du ciel. Apocalypse, chapitre 12, verset 17, et je lis, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc nous avons vu, hein, nous avons regardé dans Jérémie chapitre 6, verset 2, dans la version King James, hein, la version Osterwald ne le présente pas vraiment, mais c'est confirmé dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6, Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 6, où vous avez la femme qui est l'église de Dieu, et ensuite vous avez l'église du diable qui est Babylone, l'église catholique, l'église de Rome, la papauté. Nous avons vu que une femme est présentée dans la Bible comme un symbole d'une église. Ceci est confirmé à de différents endroits. Et ici donc, si la femme est un symbole de l'église, ce qu'elle est, la question que nous veut poser, frères et sœurs, c'est avec qui le dragon s'en va-t-il faire la guerre? Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit ici. Nous lisons que le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre avec qui? Est-ce qu'il s'est en allé faire la guerre avec la femme? Non. Est-ce qu'il s'est en allé faire la guerre avec la postérité de la femme? Non plus. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et pourquoi est-ce que le diable fait la guerre au reste, avec le reste? Pourquoi il ne fait pas la guerre à la femme? Pourquoi il ne fait pas la guerre à la postérité de la femme? C'est une réponse que nous mettons en suspens parce que en nous tournant vers Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21, nous y trouvons la réponse. Est-ce que c'est bel et bien la réalité? Ou plutôt, quelle est notre compréhension de ces trois volets, encore une fois? La femme, la postérité et les restes de sa postérité. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 jusqu'à 19, je lis brièvement, vous avez Jésus qui s'adresse à l'église de Laodicée. Hein, nous avons vu que la femme est un symbole de l'église, n'est-ce pas? Gardez cela à l'esprit. Et je lis ici au verset 14, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, aussi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et te repens. Donc ici, Jésus, le témoin fidèle et véritable, s'adresse à l'ange de l'Église, à l'ange de Laodicée, à la femme. Il s'adresse à la femme, il s'adresse à l'Église. Mais parce que l'ange refuse la correction et l'exhortation, comme nous l'avons vu dans les études précédentes, parce que le ministère, les dirigeants de cet ange, de cette église, de cette femme, a refusé la correction, a refusé l'appel à la repentance que Jésus lui a adressé à travers le message de la justice de Christ, à travers le message de 1888 de Minneapolis, parce que l'ange a refusé la correction, et l'exhortation et l'appel à la repentance, Jésus, le témoin fidèle et véritable, se tourne au verset 20 vers quiconque, vers quelqu'un. Hein? Il s'adresse à la femme, Jésus s'adresse à la femme, mais la femme ne veut pas. Du moins, l'ange qui contrôle la femme ne veut pas. Et donc, ça équivaut à ce que la femme ne veuille pas. Parce que l'ange contrôle la femme. Le ministère dirige. Le ministère, les dirigeants dirigent la femme. Si les dirigeants ne veulent pas, la femme ne va pas. Vous comprenez? C'est important de voir la distinction ici. De voir que c'est bel et bien ce qui est décrit ici, prophétiquement. Et donc, vous voyez que au verset 20, après avoir s'être adressé à la femme et que la femme a refusé, comme nous l'avons vu bien et bel et bien, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, ce quelqu'un qui a répondu à l'appel de Jésus s'est matérialisé en un autre mouvement. En cet autre ange d'Apocalypse, chapitre 18, il disait au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et donc, Dieu a cessé de s'adresser à la femme et maintenant s'adressait à quelqu'un. Si quelqu'un m'entend ou m'ouvre la porte, je souperai avec lui. Je partagerai avec lui. Il aura une communion avec moi et il sera mon église. Comprenez? Et donc, lorsque la Première Guerre mondiale a donné naissance, pour ainsi dire, à ce quelqu'un, à ce nouveau mouvement, la postérité de la femme était née. Passer de la femme à sa postérité. Mais le tracé prophétique ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Parce qu'au verset 21, Jésus stipule que l'héritage de la vie éternelle, s'asseoir avec Christ sur son trône et régner avec lui pendant l'éternité, cet héritage est réservé seul aux vainqueurs. Verset 21, vous le lisez avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis aussi et suis assis avec mon Père sur son trône. Qui est-ce qu'il fera asseoir avec lui pour régner avec lui en roi et en prêtre de Dieu, dans le royaume de Dieu? Parce que c'est ce qu'il avait promis aux 12 disciples. Vous, vous assirez dans le royaume de Dieu et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas ce qu'il avait promis à ses 12 disciples, Judas ayant été remplacé depuis? Vous vous assirez, vous régnerez. Et ici, il dit, comme il avait promis en substance aux disciples, il dit de la même manière, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône pour régner avec lui dans l'éternité à travers l'immensité de l'univers sur son dominion, sur l'immensité de ses possessions. Il dit cela, il dit celui qui vaincra, à celui qui vaincra, cela seul est réservé. Et donc ce n'est pas à la femme, ni même à sa postérité, mais au reste de sa postérité que sont confiées les promesses, que sont promises l'accomplissement des promesses, qui promit l'accomplissement des promesses. Donc non pas la femme, ni même sa postérité, qui vit le jour, en 1914, de manière matérielle et physique, mais au reste de sa postérité, que Dieu réserve la couronne du vainqueur. Parce que ce sont eux qui obtiendront la victoire. Donc, je reviens en résumé sur ce que nous avons vu aujourd'hui, frères et sœurs. Sous l'étendard du message du troisième ange, nous avons et nous trouvons trois volets distincts. La femme d'Apocalypse. La femme d'Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 12, ce n'est autre que l'église adventiste du septième jour, indéniablement. C'est elle qui a communiqué le message du troisième ange. C'est elle qui s'est fait porteuse de ce message. Mais le message n'était pas et n'est pas limité à l'organisation, parce qu'il existait avant même que l'organisation voie le jour. Nous gardons cela à l'esprit. Ensuite, nous avons la postérité de la femme, que l'on trouve dans Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 3. Et il s'agit ni plus ni moins du mouvement de réforme. Nous pouvons le vérifier, nous l'avons vérifié, nous pourrions le vérifier encore, que l'histoire montre bel et bien le mouvement de réforme comme l'accomplissement des diverses et variées prophéties qui annonçaient un réveil et une réforme. De tous ces appels et de toutes ces annonces que Dieu, à travers le témoignage de Jésus, donnait vis-à-vis d'un mouvement qui verrait le jour et qui voyait déjà le jour au temps de Sœur White à travers ses paroles où elle disait qu'une nouvelle vie descend, et maintenant on peut dire descendait du ciel, à savoir cette vie qui était communiquée à travers le message de 1888. Une nouvelle vie descendait du ciel, deux parties se formaient, des divisions pourront être vues dans l'Église. Il y avait cette division, et donc, lorsque la guerre mondiale a éclaté, cette division s'est matérialisée de manière concrète et physique, de telle manière qu'il put y avoir la naissance d'un autre mouvement organisé que nous connaissons aujourd'hui encore comme le mouvement de réforme. Mais là, les tracés prophétiques ou le tracé prophétique ne s'arrête pas là parce que cela continue dans Apocalypse chapitre 18 vers le verset 4 où il s'agit bel et bien, je cite, d'un autre quelque chose, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un autre ange, mais il s'agit d'un autre messager parce que la parole en parle comme une autre voix du ciel. Et donc voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons traversé les tracés prophétiques qui constituent le tracé prophétique, nous aidant à comprendre la place qu'a ce cinquième mouvement dans la prophétie et dans l'histoire. Et j'aimerais pour conclure notre méditation d'aujourd'hui que l'on puisse lire l'esprit de prophétie encore une fois, cette fois-ci dans le livre évangélisé à la page 630 et au paragraphe 1. L'œuvre va bientôt s'achever. L'œuvre du message du troisième ange va s'achever bientôt. L'œuvre va bientôt s'achever. Les membres de l'Église militante qui se sont montrés fidèles deviendront l'Église triomphante. Hein? Qui est-ce qui est l'Église triomphante? Ces personnes-là du verset 21. Ces personnes-là qui ont fait partie de l'Église militante, mais qui se sont montrées fidèles, que fera Dieu avec cela? Il les mènera à cette autre voie du ciel. Et ensuite, ils deviendront, à la toute fin, l'Église triomphante. Donc ce processus, ce n'est pas juste vous êtes là, dans Babylone, et ensuite, clic, vous arrivez et vous êtes à la glorification de votre corps à l'arrivée de Jésus. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça le tracé prophétique. Le tracé prophétique, c'est que Dieu appelle son peuple à travers une voie qui est la sienne. Et donc cette voie de Jésus, elle est progressive. Et cette voie de Jésus nous appelle dans un cheminement de sanctification dans lequel sa voix est la même qu'elle fut lorsqu'il nous appelait et nous parlait dans le sentier, le cheminement de la justification. C'est une voix d'amour. Et donc Dieu ne violente pas ce qu'il cherche à rapatrier dans son enclos pour l'éternité. Il s'agit du même humble et doux Jésus. Et ce même humble et doux et fidèle pasteur va conduire son peuple de manière à les sanctifier pour que, en se montrant fidèles, ils arrivent à cette superposition où ils deviennent progressivement l'Église triomphante en se joignant à l'autre voie du ciel. Hein? Ces choses-là, frères et sœurs, se juxtaposent. Ces choses-là se superposent. Il y a un enchevêtrement des activités spirituel avec les développements et les déroulements prophétiques de telle manière que ce n'est pas noir sur blanc avec des coupés collés sans aucune diffusion progressive des couleurs. Il s'agit d'une réalité spirituelle et d'une transition progressive vers l'Église triomphante. Et je lis encore une fois dans Événements des derniers jours, à la page 52 et au paragraphe 5, le suivant. La vie de Christ, hein, nous parlons de Christ, nous parlons de lui, nous parlons de son esprit, de sa manière de vivre, la manière dont il vécut sur la terre et l'exemple qu'il nous donna pour que nous puissions le suivre. Ceci ne peut être dissocié de cette transition de l'Église militante à l'Église triomphante. Et c'est d'ailleurs précisément le fait que nous joignions cette réalité à ces tracés prophétiques, à ces développements prophétiques dans lesquels Dieu nous appelle à prendre part, c'est précisément le fait de lier cela qui constitue cette autre voie du ciel. Parce que seule la voie de Dieu, seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la capacité de joindre à la fois la justice de Dieu et l'amour de Dieu. J'allais dire l'amour de Christ, mais ce n'est autre que l'amour de Dieu. Parce que Jésus disait dans Jean chapitre 14 que si nous avons vu le Fils, nous avons vu le Père. Parce que le Fils est venu faire les œuvres du Père. Et Jésus disait, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce que je vois faire le Père. Je lis. Événements des derniers jours, page 52. La vie de Christ était une vie chargée d'un message divin de l'amour de Dieu. C'était sa vie. Elle était chargée de cela. Écoutez maintenant. Et il désirait intensément transmettre cet amour à d'autres dans une riche mesure. La compassion rayonnait de son visage. Et son comportement était caractérisé par la grâce, l'humilité, la vérité et l'amour. Tout membre de son Église militante doit manifester ces mêmes qualités s'il veut rejoindre l'Église triomphante. Vous comprenez, frères et sœurs ? Voilà ce que ça veut dire. Pour se joindre à cette autre voie du ciel, qui n'est autre que ce troisième volet sous le message du troisième ange, qui n'est autre que celui qui sera vainqueur, à qui Jésus a promis toutes les promesses de Dieu sous l'alliance de l'évangile éternel, sous cette alliance éternelle faite avec Abraham, cette alliance qu'il fait avec tous les fidèles, tous ceux qui ont la foi de Jésus et qui gardent les commandements de Dieu, toutes ces promesses-là, tous ces accomplissements-là sont réservés à celui qui vaincra. Et si nous voulons faire partie de cette Église triomphante, eh bien nous ne pouvons en faire partie de la manière dont nous avons peut-être fait partie des Églises précédentes. Parce qu'ici, il s'agit non pas simplement de joindre une organisation, mais de joindre le triomphe. Vous ne pouvez pas joindre le triomphe si vous n'êtes pas vous-même en train d'obtenir la victoire. Vous comprenez, frères et sœurs ? Ici, il s'agit d'un message qui est indissociable de la présence de Dieu. Indissociable ! Parce que pour être participant de l'énergie qui anime ce cinquième mouvement, eh bien, il faut être participant de la nature divine, quand c'est marqué dans 1 Pierre chapitre 1 ou 2, je ne sais pas, où nous sommes appelés, à travers les grandes et glorieuses promesses de Dieu, de devenir participant de la nature divine, ayant échappé aux corruptions qui demeurent dans le monde à travers la convoitise, quelque chose comme ça. Eh bien, pour rejoindre l'Église triomphante, cette fois-ci, on ne peut pas faire comme avant. Cette fois-ci, faut entrer à travers la porte étroite. Si nous avons réussi à nous joindre dans nos expériences précédentes, aux églises que la prophétie nous montre comme déchues et impossibles de relever, si nous avons joint dans ces expériences précédentes ces corps, ces organisations, d'une manière où nous n'avons pas réellement pris part à la croix, cette fois-ci, nous ne pouvons pas faire ainsi. Parce qu'il s'agit ici du mouvement qui nous mène vers le retour de Jésus, qui nous mène vers le retour de Jésus en homme et femme victorieux. Parce que vous pouvez aller au retour de Jésus et être pécheur et perdu, mais nous, nous voulons arriver au retour de Jésus comme prêt, préparé, sanctifié et prêt à recevoir et à être finalement glorifié en la présence de Christ, quoique ce ne sera pas sans angoisse. Mais quoique vous ayez des angoisses, comme c'est marqué dans la tragédie des siècles, si vous avez confessé tous vos péchés, que tous vos péchés sont allés avant vous dans le jugement, alors, certes, vos visages deviennent pâles à la vue de ce nuage du signe du Fils de l'homme, mais ils ne deviennent pas noirs comme ceux qui n'ont aucune espérance de vivre avec Christ en éternité, qui sont chargés du fardeau de la culpabilité de tous leurs péchés qui se sont amoncelés avec ceux de Babylone jusqu'aux cieux et que maintenant Dieu vient rabougrir les cieux vers lesquels se sont amoncelés leurs péchés et tous leurs péchés viennent s'appesantir sur leurs épaules humaines qui ne peuvent supporter le poids de ce feu consumant qu'est Jésus-Christ. Mais nous, nous voulons arriver à ce jour prêt. Et pour cela, il faut se joindre à la voie. Et en se joignant à la voie, vous ne pourrez échapper à la voie. Parce que c'est la voix de Dieu. Et donc Dieu sera sans cesse en train de vous parler. Il ne vous parlera pas simplement pour vous tapoter dans le dos comme on le fait aux chiens. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des chiens, mais ce sont des hommes. Et Dieu s'adresse aux hommes qui ont été rachetés par le sang de Christ, non pas comme à des chiens, mais comme à des fils et des filles du Dieu éternel, du Très-Haut, et ainsi comme à des personnes ayant été dans lesquelles il a investi une somme incomparable, sans limite. Et s'adressant ainsi à ces personnes-là, il s'adresse en nous révélant nos fautes. Il s'adresse à nous en nous exhortant à la perfection, en nous exhortant à l'amélioration, en nous exhortant à faire mieux chaque jour. Et donc, il n'y a rien qui sera laissé dans l'ombre et l'obscurité. Tout sera mis en lumière. Ainsi donc, frères et sœurs, s'il y a des choses que vous ne voulez pas être révélées devant l'œil scrutateur de Dieu, vous ne pouvez pas vous joindre à cette autre voie. Mais si nous sommes prêts à tout lâcher, à ne faire plus aucune réserve, alors nous allons nous joindre à cette voie, non pas comme nous le faisions avant aux organisations précédentes, nous allons nous joindre à cette voie, non pas comme à des hommes, non pas comme pour servir des hommes, mais comme à Dieu, pour servir Dieu et pour se préparer et pour préparer un peuple pour le retour du Seigneur. Et en se joignant à cette voie, nous serons alors précisément ce que nous avions toujours voulu être, à savoir des témoins de la gloire et de la grâce et de l'amour de Dieu envers ceux que nous avions toujours voulu atteindre, à savoir ceux qui sont son peuple dans Babylone. Vous comprenez? Donc voilà, frères et sœurs. Nous avons aujourd'hui exploré brièvement les tracés prophétiques qui justifient, expliquent et nous donne à comprendre pourquoi il y avait la nécessité d'un cinquième mouvement, d'un troisième volet sous le message du troisième ange. Par la grâce de Dieu, nous poursuivrons cette étude dans le proche futur pour comprendre pourquoi ce quatrième ange a été laissé en arrière, qu'est-ce qui justifie dans l'histoire ce tracé prophétique que Dieu avait donné déjà à l'avance, par lequel il voyait déjà, car Dieu connaît déjà la fin dès le commencement, par lequel Dieu voyait déjà ce qui allait se passer au sein de la matérialisation de ce quatrième ange, de ce quatrième mouvement, de ce mouvement de réforme. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions être abondamment enrichis et nourris comme nous l'avons été aujourd'hui, et que nous puissions garder cette nourriture au-dedans de nous, et que le Saint-Esprit applique ces leçons très profondément dans notre être et notre conscience pour que nous puissions en tirer un bénéfice et pratiquer. Mettre en pratique les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons apprises, et faire quelque chose de ce que nous avons reçu. C'est ma prière, que le Seigneur nous accompagne en cela, que le Seigneur vous guide et nous assiste au nom de Jésus. Amen.